Avant-propos. Il y a des matins où le ciel semble plus bas que les autres jours, et ceux où nos mains peinent à trouver leur chemin. Il y a des aubes où tout ce qui nous entoure nous semble vain, où l'avenir n'a pas d'autre ambition qu'un funeste horizon. Il y a des mélancolies qui se dessinent dans les sourires. Il y a des tristesses d'un monde à venir. Il y a les absents et les disparus. Il y a les angoisses qui inondent les têtes d'oreiller. Il y a les frustrations qui dévorent. Il y a les douceurs qui nous manquent. Il y a les petites peines inavouables et les grands démons intérieurs. Il y a la complexité de la société et la brume épaisse de nos vies. Il y a les soirs de défaite et les dimanches nauséeux. Il y a les drames immenses et les dépressions blanches. Il y a les hontes minimes et les grands tollés. Je crois que nous avons tous, au plus profond de nos cœurs, un absolu besoin de réconfort. Le besoin de bras pour y déposer nos larmes et d'écoute sans réponse pour libérer nos cris. Dans l'épaisseur de nos privilèges ou dans l'aridité de nos douleurs, chacun cherche, comme il peut, avec les outils dont il dispose, à rendre un peu plus supportable cette odyssée, qui un jour commence, un autre s'achève et qui, entre-temps, nous laisse si souvent hagards, perdus au milieu des eaux. D'aussi loin que je m'en souvienne, voilà ce que j'ai toujours voulu être, philosophe du réconfort. Et continuer modestement, avec l'humilité qu'il faut pour prendre soin de l'esprit des gens, à tenter, tant bien que mal, de redonner de la force morale et de faire du courage et de l'espoir d'heureuses possibilités. C'est ce que je vise dans ce livre, ni une leçon, ni une méthode, mais plutôt un tremplin pour raviver nos joies en observant ce qui est autour de nous en vaut encore la peine. Je suis donc partie en quête de tous les fragments, de tous les espaces, de toutes les notions qui, dans les moments douloureux de nos existences, nous tiennent debout, nous ramènent à l'action, à la douceur, à notre force vitale et au courage. Ces pages sont une exploration. Ces 9 chapitres n'ont rien d'exhaustif, mais ils sont chacun une invitation à relever la tête. Ils sont une exploration pour les heures sombres, un carnet de voyage à garder auprès de soi lorsque tout tangue. Au fond, ces 9 chapitres n'ont pas d'autre volonté que de nous rappeler tout ce qui peut donner du sens à nos vies. Chapitre 1. Voir la beauté partout. Pourquoi le beau nous soigne. Votre œil me fait un été dans mon âme. Pierre de Ronsard. C'est une petite fille arborant fièrement une poignée de cerises. Une nature morte s'exposant en silence. Une jeune mère serrant dans ses bras un enfant. Ou encore, le corps de 2 hommes épuisés par l'effort. Ce sont des œuvres qui traversent les siècles et racontent notre histoire. Celle intime des personnages qu'elles dévoilent et celle collective des vies qui nous précèdent. Dans leur cadre, il est question d'amour, de saisons, de femmes, de la Seine ou même de palais d'Orient. Ce sont des tableaux de Russell, de Courbet, d'Archimboldo, du Caravage ou de Murillo. C'est parfois lumineux, d'autres fois plus sombre. Il s'agit en somme d'une série de peintures qui appartiennent à ce que l'on nomme l'art. Et cela n'aurait rien de surprenant si, au lieu d'être réunies dans l'espace solennel d'un musée, ces toiles, ou plutôt leurs copies, savamment reproduites, n'étaient pas accrochées dans des chambres d'hôpital. Car voilà l'idée singulière proposée par le premier musée de France depuis 2013. Faire entrer le Louvre à l'hôpital. Le principe est aussi simple qu'étonnant. Le musée du Louvre et l'assistance publique Hôpitaux de Paris s'associent pour offrir aux patients, à leurs familles et au personnel hospitalier le plaisir de contempler des œuvres d'art comme une sorte d'échappée, une parenthèse hors du quotidien. La sélection des 200 œuvres ne s'est pas faite au hasard. Un comité d'experts réunissant psychiatres et gériatres s'est prononcé sur l'impact que pouvaient avoir certains tableaux. Conversations, conférences, formation de l'équipe soignante, choix conscient et volontaire du patient, installation des œuvres dans le paysage familier de la chambre, etc. Les facettes sont nombreuses et le projet ambitieux se décline en différents volets, ainsi que dans plusieurs établissements, avec, à chaque fois, la même ambition, celle d'améliorer la qualité de vie du patient. L'enjeu est bien là. Loin d'être un programme simplement décoratif, le fil conducteur de toute cette initiative est de faire du bien, d'apporter ce qu'il faut d'apaisement, de réconfort, de douceur et d'émotion à ceux qui, en vertu de leur situation, en ressentent le besoin. Contempler un tableau, qu'on le connaisse ou non, permet de partager des souvenirs, d'abolir la distinction soignant-soigné, de créer une respiration, mais aussi, et surtout, d'être possiblement touché par le beau. Quel curieux vertige, dans un monde de traitement, de défaillance, de douleur et de perte, dans un monde d'urgence, d'aridité, de fatigue et d'empêchement, d'avoir l'opportunité d'être frappé par le beau. Le beau comme facteur de soin, le beau comme thérapie, le beau comme une caresse sur nos meurtrissures. Le Louvre à l'hôpital met le doigt sur l'une des interrogations les plus fascinantes qui soient lorsqu'on commence à réfléchir au réconfort. À quel point le beau peut-il faire du bien ? Pourquoi nos yeux se plissent-ils ? Notre respiration change-t-elle ? Notre peau frissonne-t-elle au contact de la beauté ? Qu'importe que nous ayons face à nous une toile du Louvre, un bord de mer, un simple rayon de soleil sur un coin d'étagère. Sans même nous en apercevoir, le beau nous soigne. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir proposé un atelier de philosophie à de jeunes enfants. Au fil de la séance, je leur avais demandé de montrer ou de décrire quelque chose qu'ils trouvaient beau et d'expliquer pourquoi. Au bout d'un court instant, une petite fille avait sorti de sa poche un trombone, un banal trombone. Elle l'avait présenté sur la paume de sa main comme un précieux trésor. « Ça, c'est beau, et le regarder me rend heureuse. » Plutôt que de répondre par des critères, plutôt que de rendre son choix rationnel, dans un seul mouvement, elle avait exprimé l'effet que la beauté du trombone produisait sur elle. Ce banal trombone, que nous aurions été si nombreux à perdre ou à ignorer, était pour elle une source de bonheur. J'avais été particulièrement bouleversée par son intervention, par sa façon de regarder le monde, par cette puissance joyeuse dissimulée dans un simple fil de fer. Que peut-il y avoir de commun entre un tableau de John Russell et un trombone ? Quel miracle aide un patient de l'hôpital et une petite fille dans une salle de classe à se sentir mieux ? Comment se fait-il que le beau puisse nous élever, nous enchanter, nous soigner ? Le comprendre, le conscientiser, n'est-il pas la première clé de notre exploration vers un peu plus de réconfort ? Et si voir le beau nous aidait à appréhender nos vies autrement ? Se laisser surprendre par la beauté. L'adjectif « beau » et le nom « beauté » dérivent du latin « bellus », diminutif familier de « bonus », qui signifie « joli ». Charmant. La beauté peut se rencontrer sous des formes variées. Dans la nature, à travers un coucher de soleil par exemple, dans des objets, dans des corps, etc. La beauté est multiple et se faufile partout. Au sens large, elle est donc ce qui nous plaît, ce que l'on trouve admirable. Cela semble facile, n'est-ce pas ? Ainsi définie, la beauté pourrait simplement être entendue comme l'alchimie de la rencontre entre un sujet et un objet. Son antonyme le plus évident est la laideur, mais aussi, par extension, tout ce qui nous laisse indifférents, tout ce qui, littéralement, ne retient pas notre admiration. Le beau vient ajouter quelque chose. Il n'est pas juste un agrément, il est une appréciation profonde, une apparition marquante, qui vient chercher notre émotion.